plaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Alors Christine, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, voilà. On va parler polyamour aujourd'hui. Bah, présente-toi en quelques mots. Quoi.
J'ai 58 ans cette année. Et que dire d'autre ? Je suis travailleuse indépendante. Je travaille chez moi. Et j'ai donc pas mal de liberté. Et je suis bisexuelle. Je ne sais pas si ça peut résumer un personnage, si c'est suffisant. Mais ça peut être une introduction pour la suite. Et je vis avec ma compagne depuis 16 ans.
Ok. Et alors, quand tu dis ta compagne, donc, c'est quelqu'un qui est pas loin de nous, qui est même ici derrière nous, voilà, qui est là un petit peu, qui assiste aussi. Peut-être qu'elle interviendra, oui.
Oui, éventuellement. Okay. Oui, c'est elle, Patricia, que j'ai connue donc il y a 16 ans. En fait, c'est elle qui a tout fait pour me rencontrer. C'était une rencontre intéressante. Elle a fait toute une enquête pour me retrouver. Elle avait lu une lettre que j'avais publiée dans un journal sur la bisexualité, où je défendais cette idée-là, dans un journal lesbien français. Et un journal dans lequel il était très mal vu de se déclarer bisexuel. Donc je défendais ça mordicus. Patricia a lu ma lettre et ça a correspondu à ses propres positions. Et donc elle a... Comment dit-on, elle a déplacé ciel et terre pour me rencontrer et ça a marché.
Alors la bisexualité dans les amours pluriels, c'est pas mal, ça peut être un avantage même peut-être.
Oui, je crois que ça démultiplie encore l'idée de polyamour, je pense. Hein. Il n'y a pas eu d'homme impliqué dans cette histoire pour l'instant, mais oui, c'est une ouverture supplémentaire.
Et donc le polyamour est en train de se définir aussi, hein, donc on parle d'étiquettes, il y a des débats sur le forum aussi sur polyamour.be ou .info, on est un peu obligé de passer par là, même si voilà, tu te définis comme étant bisexuel, donc ça donne un élément en plus, et en même temps, est-ce que tu es un petit peu aussi dans des réflexions un peu avec une petite méfiance sur les étiquettes qu'on pourrait mettre d'emblée ?
Alors... Pas sur cette étiquette en l'occurrence, ni sur ce concept, mais c'est peut-être le terme qui me plaît pas trop. Je pense qu'on devrait peut-être chercher autre chose. Poly, amour, bon, c'est peut-être pas très heureux. C'est tout, hein. Mon intérêt pour cette idée-là, celle que vous soulevez, enfin ce polyamour, comme vous le dites, est en fait très récent parce que je ne me suis jamais posé la question. Je l'ai toujours vécu. Mais ça n'a jamais été pour moi une préoccupation. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé que je serais bisexuelle. Bon, c'était pas... Je mettais pas un mot sur l'idée, mais je savais comment je vivrais ma sexualité et mes amours. Donc c'était dans les années 68-70. Et ensuite, j'ai vécu le polyamour, mais sans lui mettre de nom, en fait, et donc d'étiquette.
Et donc, tu le définis, chacun le définit un peu comme il le sent, mais par exemple, au niveau un peu concret, tu as relation avec Patricia, est-ce qu'il y a d'autres personnes, et comment est-ce que vous faites un petit peu au niveau des agendas, ou est-ce que tout ça a pris un petit peu de temps à se mettre en place, ou ça te paraît assez naturel ?
Alors, c'est assez récent. Enfin, moi, je le vois comme assez récent. Patricia m'en a parlé avant que ça s'institutionnalise, si on peut dire. Et ben non, ça, c'est j'ai le sentiment que ça se fait d'une façon assez informelle et vraiment sans rigidité. On n'a pas d'agenda ni de plan de carrière, si on peut dire. Hein. Et j'ai l'impression que toutes les trois, puisqu'il s'agit de trois femmes, on est plutôt souple. Hein, donc, alors c'est drôle parce que, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui, mais pour ce que j'en sais, la troisième a elle également une amie, une compagne. Donc c'est vraiment un petit groupuscule comme ça, une espèce de comète, enfin. Et donc plusieurs personnes sont impliquées là-dedans, et là, donc la quatrième personne est elle aussi au courant et d'accord.
Donc vous réussissez quand même quelque chose d'assez étonnant.
C'est assez étonnant et assez exceptionnel, parce que, sauf erreur, cette personne-là est très jeune, doit avoir dans les 22-23 ans. Voilà, Patricia me dit que je ne me trompe pas. Donc, c'est d'autant plus... Moi, je dis chapeau, parce que bon, moi, j'ai vécu ma vie, j'ai mes expériences et j'en ai tiré des conclusions. Elle, vraiment, elle débute dans la vie et elle accepte la situation avec visiblement beaucoup de... Pas seulement de tolérance, mais très volontiers, quoi.
Donc il y a le croisement de ces âges qui, comme tu le dis, est une richesse sûrement en plus. Quand j'ai été me rendre 2-3 fois à Paris avec donc les rencontres polyamour.info, ça m'a aussi un peu saisi. François Saint-Père le disait aussi, tu as quand même une belle jeunesse là, de 20 à 35, qui est là, présente, et qui a l'air de vouloir un petit peu s'inscrire dans quelque chose d'un peu nouveau, même si le polyamour n'est pas vraiment nouveau, mais il y a quand même une espèce d'affirmation.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression... que les jeunes, pour dire ça, mais vraiment d'une façon très généraliste, vont plus volontiers vers cette tendance. Ils sont certainement plus ouverts qu'on a pu l'être, nous, dans notre génération, la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ce qui est dans le fond, ça n'est qu'une chose normale, une évolution normale, hein. La liberté et l'idée libertaire étant de plus en plus, enfin ayant progressé, il est normal aussi qu'une plus grande partie de la jeune génération soit ouverte à des idées ou des principes eux aussi plus libertaires et plus tolérants. Je pense aussi qu'on a bénéficié peut-être, de tout, ça serait à creuser, de tout le mouvement de libération des homosexuels, je crois. Parce qu'il y a eu un effort et vraiment une lutte acharnée pour la visibilité, pour l'acquisition de liberté et de droits. Et à mon avis, ça doit entraîner toute une série de revendications qui sont formalisées ou pas, mais qui en tout cas rejaillissent sur le vécu des gens et ce que se permettent les gens aujourd'hui. Moi, j'écoute beaucoup la radio en travaillant, et je ne sais pas si ici vous en avez connaissance, une émission de radio tous les après-midi sur une chaîne privée, tenue par Brigitte Lahaie. Donc c'est pas le fait qu'elle ait été actrice porno, sinon qu'elle a eu une évolution formidable. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de l'écouter.
J'ai déjà écouté ces émissions, oui.
C'est absolument formidable. D'une part, pour ce qu'elle dit, pour les propos qu'elle tient, les conseils qu'elle donne aux gens. Enfin, visiblement, elle a fait des études de psy, etc. Elle sait de quoi elle parle. Mais surtout, ce que les gens transmettent au téléphone. Ce que les gens disent, moi je suis toujours ébahie, hein, je me croyais très libérée, etc. Mais il y a des hommes et des femmes qui visiblement vivent dans des couples tout à fait papa-maman, enfin classiques. Et qui font de l'échangisme, qui vont dans des clubs. Il y a même des termes, moi, que j'apprends maintenant, que je vais chercher dans les dictionnaires, etc. Tu vois. Et on parle de la sodomie comme ça avec une facilité absolument incroyable. Oui, il y a un système de mode certainement, mais il y a aussi une liberté de parole qui était absolument inconnu il y a ne serait-ce qu'encore une dizaine d'années. Hein.
Est-ce qu'on peut dire qu'on récolte les fruits que tu as semés en 68
Oui, ça certainement. Moi, j'y tiens mordicus. Ouais, je pense que c'est vraiment une illusion de dire que 68 n'a rien semé, Vraiment, c'est même une erreur historique, parce que ça a laissé dans les têtes une avidité de liberté, une... Et oui, des libertés de comportement et de réflexion qui sont absolument indéniables.
Et donc, moi, je fais aussi une petite alliance ici avec ce que disait Françoise sur l'idée de... Bon, elle est dans le guide des amours pluriels, biodiversifier les amours. Et donc, ne pas tomber dans le jeu, et l'écologie est un peu à la mode, évidemment, ne pas breveter le vivant. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des liens aussi vers ça? En disant, ben, ne pas être jaloux, c'est peut-être ça aussi.
C'est-à-dire
eh ben, ne pas breveter, donc ne pas être dans une idée de propriété privée.
Oui, c'est ça, oui, l'idée de propriété, oui. Mon mari, ma femme, mon chien, ma maison. Oui, mais c'est peut-être pas ce qui est... enfin, c'était peut-être pas le plus important. C'était vraiment, je pense, plus une liberté individuelle. C'était vraiment très individualiste. En même temps, on était... enfin, c'était vraiment un mouvement de groupe. Et aujourd'hui, on dit communauté. Moi, ça me dérange beaucoup, ce terme-là. Je l'emploie très, très rarement. Des groupes sociaux, des groupes politiques. Mais je pense qu'en fait, c'était très, très individualiste dans le fond. C'est pour ça que je pense que c'était très libertaire au sens premier, pour moi, hein, je me trompe peut-être, hein, de l'anarchie pour ce que j'en ai connu, pour ce que j'ai lu, etc. C'est un mouvement qui faisait, enfin, à mon avis, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, beaucoup appel à l'autodiscipline, à l'autocritique et à l'altruisme, mais commencer par sa propre révolution et sa propre faire advenir sa propre liberté pour pouvoir faire advenir celle des autres.
Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une digestion en plus ou quoi?
Ben, et aujourd'hui, ben, les choses ont évolué parce qu'en même temps, il y a eu beaucoup de freins, il y a eu beaucoup d'opposition vis-à-vis de ces mouvements libertaires qui ont progressé, qui ont bougé, qui ont avancé malgré eux. Il y a également le fait que beaucoup de gens sont partis voyager, sont allés voir à l'extérieur ce qui s'y passait, sont sortis de leur petit hexagone ou de leur petite Belgique et de leurs frontières. Ils sont revenus avec des idées d'ailleurs, des paysages étrangers, des visages, des costumes autres. Et puis, il a fallu se lancer dans la vie. Donc, ils se sont lancés dans la vie, dans des carrières professionnelles avec tout cet acquis. Et je crois que maintenant, ça rejaillit dans toute la société. Une société, c'est très poreux, donc ça a bénéficié de tout ça. Le mouvement aurait été fasciste, la société se serait fascisée, je crois. Hein. Bon. Il a été libertaire, elle a acquis un peu plus de liberté et d'ouverture sur le monde.
Et dans ton couple avec Patricia, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça a été à un moment donné une nécessité ou une conviction politique qui quelque part renforce un petit peu aussi le sens qu'on peut donner à une vie? Comment tu abordes ça dans ton couple? Ou est-ce que tu étais prêt, dans le fond, à être aussi dans l'exclusivité? Ou est-ce que cette ouverture de départ a tout de suite été un peu d'emblée un petit peu pressentie?
L'ouverture, elle était pressentie.
Souhaitée, même.
Souhaitée, je ne sais pas. Elle a été souhaitée peut-être à un moment donné, puisqu'elle est advenue, mais pressentie, oui, c'était vraiment une condition sine qua non. Patricia était plus monogame, je dirais, quand on s'est rencontrés. Elle avait vécu des histoires monogames, si on peut dire, et sur la longue durée, sauf erreur. C'est comme ça, en tout cas, j'ai compris, bon, avec peut-être quelques aventures extra-conjugales, si on peut dire. Mais, alors que moi, j'avais vraiment fait le tour de la question. J'avais vraiment multiplié les histoires, les amours, les aventures. Donc j'étais arrivée aussi peut-être un petit peu en fin de... Enfin, pas en fin, mais à une accumulation, si on peut dire, qui me satisfaisait. J'avais vraiment rencontré énormément de gens. Quand j'ai rencontré Patricia, j'ai eu envie de poser ma valoche et au contraire d'être un petit peu plus monogame. Et elle, au contraire, alors ça a été pour elle une espèce de déclencheur, ça a été absolument l'inverse, elle s'est mise à... au contraire, ouvrir la fenêtre et vouloir papillonner ailleurs. Moi, ça ne m'a jamais... Parce que je n'ai jamais connu... Ça, c'est vraiment un sentiment que je n'ai jamais connu. C'est la jalousie. Mm-hmm. Ça ne m'a jamais, jamais effleuré. Je pense que j'ai été élevée d'une très, très bonne façon. Enfin, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Même pas d'être envieuse de quelque chose que possède quelqu'un d'autre. Donc, en amour, pareil... je vis absolument de la même façon, donc ça a beaucoup, beaucoup facilité les choses, parce que ça aurait été peut-être difficile. L'autre jour, en écoutant l'entretien de Clémentine, j'étais très surprise lorsqu'elle disait qu'elle est jalouse. C'est ça. Elle ressent de la jalousie qu'elle essaie de maîtriser et qu'elle surmonte. Moi, je n'ai jamais éprouvé cette difficulté parce que je ne suis pas jalouse du tout. Donc, avec Patricia, ça facilite beaucoup les choses. Elle me raconte ce qu'elle veut et ça ne pose absolument jamais de problème.
Et c'est quelque chose que tu as tout de suite senti déjà dans ta jeunesse, oui. qui était déjà comme une force en toi.
Oui. Alors, j'analysais pas dans ma jeunesse, je n'analysais pas que c'était une force. Hein. C'est par la suite que je l'ai analysé, étant au contact d'autres personnes. Je les voyais soit souffrir, soit faire souffrir leurs amoureux ou leurs amoureuses. Et moi, je passais au travers de tout ça. Et puis, je voyais aussi que ça facilitait grandement la vie.
Thank you. Est-ce que, par exemple, tu as pu, dans tes relations avec Patricia ou d'autres avant, amener quelqu'un sur ce terrain de la non-jalousie et peut-être découvrir quelqu'un doucement qui prenait confiance? Est-ce que tu as un message à donner? Est-ce que tu as envie de dire oui, c'est possible de ne plus l'être? Et tu as vu, par exemple, des gens se transformer vers ça?
Alors, oui, moi j'ai vécu ça parce que j'ai partagé la vie d'un homme pendant 11 ans. Et il a, dès le départ, je lui ai expliqué de quelle façon je vivais. Et il a bien fallu qu'il l'accepte. Donc, c'était un garçon extrêmement intelligent, très ouvert, féministe, etc. Ça s'est situé au début des années 80. On a beaucoup travaillé tous les deux. Il a fait énormément d'efforts. Et parce qu'il m'aimait, et surtout, je crois, parce qu'il m'estimait, ça c'est très important, l'estime de soi et l'estime de l'autre, c'est vraiment des sentiments primordiaux, je suppose. Il a accepté, et même plus qu'accepté, il a vécu avec le fait que j'ai des amours... un peu à la... Lui s'identifiait un petit peu, enfin, prenait beaucoup modèle sur Sartre et Beauvoir.
C'est ça.
Moi, j'allais pas jusque-là. Pour moi, ils étaient inatteignables. Mais lui, pour lui, c'était vraiment un modèle, ces deux-là.
Et quand même, quand on creuse un peu, il paraît que Sartre, malgré tout, aurait dit, dans des petites phrases comme ça, bon, avec un peu, peut-être aussi une analyse un peu de méfiance, mais à voir par rapport à des choses qu'on peut lire, mais qui disait, dans le fond, je ne dis pas tout... à Simone, et parce que... Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, je préfère mentir, c'est plus honnête. Enfin bon, c'était une petite formule,
oui.
Même si on sait évidemment qu'ils étaient dans cette belle transparence. Je pense que j'avais lu dans la revue philosophique, c'était pas si simple, et qu'il y avait eu quand même peut-être des moments d'éloignement entre eux. Mais bon, rien n'est jamais simple.
Oui, c'est ça. Oui, dans le couple le plus fort et le plus uni, même si moi je suis pour la transparence totale, je l'exige et puis vraiment pour moi c'est vraiment essentiel. Il y a quand même des petites choses qu'on tait, ne serait-ce que pour ne pas blesser l'autre ou quand c'est pas nécessaire, voilà. C'est pas la peine de le dire. Moi, et puis il y a des questions que je ne poserai pas à Patricia sur ses pratiques. Ça c'est leur
Ça semble être une limite naturelle aussi.
Oui, c'est ça, c'est un jardin secret, vraiment. C'est un tout petit jardin secret, mais qui est indispensable.
Moi, ce que j'ai pu vivre personnellement, par exemple, c'est que dans la progression que j'ai eue aussi dans les permissivités dans mon couple, c'était de se dire, mais dans le fond, si on permet à l'autre jusqu'à une sexualité, jusqu'à un amour avec quelqu'un d'autre, eh bien sûr qu'on va accepter des choses... d'un autre ordre, par exemple, ma compagne s'en va un mois à l'étranger, ou elle décide d'entreprendre des études qui, dans le fond, moi, me plaisent moyennement. Et ça, je trouve qu'il y a un bel effet de tolérance qui va, quelque part, à reculons, puisqu'on accepte cette espèce de limite qui paraît très, très lointaine. Eh bien, tout ce qui est avant, bien sûr, est gagné. Et un mari qui va aller avec ses copains voir 3 matchs de foot d'affilée, ben, dans le fond, ça ne va pas être un problème.
Oui. Mais c'est vrai. Hein.
Ça aussi.
Ah oui, absolument. Par exemple, je crois que... Moi, je vis à Paris. Et Patricia vit à Bruxelles, mais ça n'a pas toujours été, puisqu'on s'est connus à Paris. Elle vivait à Paris, elle travaillait, elle était fonctionnaire, etc. Et quand il a été question pour elle de faire évoluer sa carrière, passer des concours, je l'ai encouragée. Et lorsqu'elle a eu la chance de pouvoir travailler à Bruxelles, j'ai dit tout de suite, banco, aucun problème. Et alors autour de moi, tous mes amis m'ont dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous séparez? Tu vas la perdre? Comment peux-tu la laisser faire? Etc. Tu vois, ça a été... Et eux étaient vraiment très, très, très inquiets. Moi, non, pas du tout.
Enfin, il y avait le TGV aussi.
Oui, maintenant, avec la pratique, ils en ont la démonstration que...
Enfin, mais c'est une séparation quotidienne, quand même.
Mais c'est quand même une séparation de fait. Et puis, on ne se voit que les fins de semaine ou 2 fois par mois. C'est peu de choses. Mais on n'a jamais... Il faut dire aussi qu'on a... On a bénéficié quand même d'un certain avantage et d'une certaine expérience. On avait fait le choix de ne pas cohabiter.
D'accord.
déjà à Paris. Moi, j'aurais été pour la cohabitation, parce que j'en avais vraiment envie, je n'avais jamais pratiqué, j'avais jamais vécu avec quelqu'un dans la même maison, j'ai toujours eu deux maisons. Et Patricia, c'était l'inverse, comme elle avait vécu ces dernières années avec des compagnons ou des compagnes, elle avait envie de liberté, donc lorsqu'on a décidé de faire route ensemble, il a été très clair qu'on ne cohabiterait pas. Donc le départ pour Bruxelles, à une heure de Paris, bon, ça a été facile de mon côté, vraiment, même je l'ai vraiment encouragé, parce que ça a changé sa vie, sa carrière, etc. Et puis, c'était pas le bout du monde, quoique ça ne m'enchantait pas du tout, du tout, parce que je vais vous dire franchement, pour moi, Bruxelles, c'était sinistre. J'avais connu Bruxelles dans les 30 ans avant et c'était absolument... Enfin, c'était ni gai, ni fait, ni affaire. Alors que j'adorais Amsterdam. Donc, je l'avais prévenu. Hein. Je lui avais dit, ben, l'hiver, tu ne me verras pas parce que là-bas, il fait trop froid, il pleut toujours. Et puis, c'est une ville qui m'intéresse pas, donc tu viendras sur Paris. Et puis, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit maintenant. J'adore Bruxelles, donc c'est moi qui viens.
Donc, le polyamour fait découvrir des régions, parfois un petit peu connotées. Bienvenue chez les ch'tis, alors c'est ça que je dois dire.
Des idées préconçues stupides sur Bruxelles, qui a beaucoup évolué, qui est devenue vraiment une ville absolument épatante. Vraiment épatante. Donc voilà. Donc...
Alors maintenant, l'idée de témoigner un peu ici, bah, c'est pour se faire plaisir. C'est aussi des petits réseaux qui se mettent en route. Est-ce que tu as l'impression que c'est utile d'un petit peu tenter comme ça de se rassembler et de dire peut-être vis-à-vis du monde extérieur, tiens, bah, y a une petite communauté qui est naissante?
Je pense que c'est utile de se dénombrer. C'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul. Bon, quoi que ça ne pose pas un grand problème, on n'est pas complexé. Mais j'imagine comme les jeunes homosexuels, par exemple, ont tellement de problèmes à se situer quand ils débutent dans la vie et qu'ils commencent à avoir des soucis avec leur orientation sexuelle. Combien c'est important qu'il y ait des radios, des journaux, des homosexuels visibles, etc. Ça les... bon. Pour le polyamour, bon, c'est moins grave pour nous, si on peut dire, mais c'est important, c'est sympathique en plus. Je trouve que c'est très sympathique de savoir qu'il y a de plus en plus de monde qui vit de cette façon.
Et toi, tu as une personnalité qui fait que tu as quelque chose que tu as toujours pu un peu imposer à ton entourage? Est-ce que tu as dû combattre ou est-ce que des gens peut-être parfois plus fragiles ont besoin d'être soutenus? Ou comment tu vois ça?
Oui, moi je pense que oui, les gens plus fragiles ont besoin d'être soutenus. Et puis, il est possible aussi que dans certains couples qui vivent le polyamour, il peut y avoir quelquefois une personne, l'un des deux qui a des doutes ou qui se situe mal ou qui vit mal la relation à un moment X et qui a besoin de se recadrer ou d'entendre des avis différents ou des témoignages d'autres histoires en fait, je crois.
Et alors, dans la particularité peut-être de votre relation, puisque vous êtes entre femmes aussi, est-ce que tu sens que c'est peut-être aussi plus facile que dans le monde plus hétéro?
Alors là, je n'ai vraiment aucun avis là-dessus. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'exemples autour de moi, en fait, de gens qui vivent ça. Le polyamour. Non. Et toi, Patricia?
Elle va venir au micro, alors, Patricia. Ouais. Un petit mot, allez, comme ça, on croise les énergies. Dans ce que tu as pu entendre, comment que tu as eu envie de réagir à deux, trois moments, j'ai vu ça.
Non, pas vraiment, non, mais quand tu dis autour de nous, là, maintenant, le plus rare, c'est chez les gens mariés. Je veux dire, effectivement, je crois que ça va un peu avec le fait de ne pas se marier, de préférer être concubin ou vivre de façon plus indépendante que dans un mariage. Je pense que du moment qu'il y a un mariage, qu'il soit hétéro ou homo, peu importe, il y a quand même un établissement, il y a quand même quelque chose qui se met en place et qui est difficile. Je veux dire qu'il est plus difficile de s'ouvrir à d'autres relations si on a toute une série de problèmes pratiques ensemble. Si on a une maison, si on a... Et puis, il faut mentionner aussi le thème des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant, Christine n'en a pas. C'est très facile.
Ouais.
Toutes ces personnes-là qui n'ont pas d'enfant sont énormément avantagées. Je veux dire, évidemment, c'est une souplesse pratique que les autres ne peuvent pas avoir, du moins tant que les enfants ne sont encore pas adolescents ou jeunes adultes. Parce que, tout de même, moi je pense que c'est ça la vraie grande différence entre les gens. Il y a des gens avec enfants et des gens sans. Alors, tout ce que font les gens qui n'ont pas d'enfants, ça ne concerne qu'eux-mêmes. Ils n'ont pas à s'inquiéter, se préoccuper de l'effet que ça aura sur les enfants, soit l'effet matériel, pratique, qui va les nourrir, qui va les amener à l'école, soit l'effet psychologique. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Vont-ils souffrir? Ou des choses dans le genre. Sans compter l'œil de la société, qui est très différent. Si tu es père ou mère, on ne te pardonnera vraiment pas certaines choses qu'on te pardonne beaucoup plus facilement si tu es même pas célibataire, enfin, si tu vis un couple, mais sans avoir cette grande responsabilité, qui est la reproduction.
Oui, donc il y a plusieurs formes de polyamour, hein. Il y a les polyfamilies, enfin, il y a tous ces modèles. Mm-hmm. Et bon, ben, ici, votre souplesse à vous, elle vous enrichit. Et comme tu dis, c'est peut-être plus facile parce qu'il n'y a pas d'enfant. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi un choix politique? Est-ce que tu vas jusque-là de vivre un peu comme ça? Ou c'est vraiment... Est-ce que ça peut être un choix de revendication de la cellule familiale de base en disant, ben, aujourd'hui, dans une société, on peut peut-être aller plus dans l'audace des relations à plusieurs?
Si on élimine la possession, on élimine aussi la compétition. Par conséquent, ça devient presque naturel d'admettre que l'autre puisse avoir d'autres relations et de prétendre aussi que l'autre accepte qu'on en ait. Et à ce moment-là, la mise en commun est plus facile. Je veux dire, tu instaures de fait un type de famille, entre guillemets, hein, parce que ce n'est plus la famille traditionnelle, qui fait que, de toute manière, chacun essaye de trouver un équilibre.
Toi, tu es originaire du Sud. Est-ce que là, il y a un poids d'héritage comme ça assez lourd?
Oh là. Je suis originaire du Sud, non seulement de l'Italie, non seulement de l'Europe, parce que l'Italie est le sud de l'Europe, mais en plus du sud de l'Italie, avec tout le poids méditerranéen.
Tu as dû batailler un peu,
par contre. Oh, mais j'ai dû carrément partir. Je veux dire, si j'étais restée chez moi, moi je suis partie de chez moi à 22 ans, en mettant 2000 km entre ma famille et moi, c'était absolument impensable. Je ne suis pas très jeune non plus, mais je veux dire, quand je suis partie, moi, c'était 78, ok. Ça n'a pas beaucoup changé. Je vois qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, mais je parle de revendications beaucoup plus élémentaires. Je ne parle même pas d'avoir plusieurs relations, je parle juste de ne pas se marier, c'était déjà énorme, de ne pas se marier, de ne pas habiter avec ses parents, ouais. D'avoir son propre appartement. J'ai dû partir parce que ça ne se faisait pas, et ça se fait encore extrêmement peu, d'avoir son appartement dans la même ville que ses parents. Si on a des parents, on les guide.
C'est presque de la provocation.
C'est de la provocation, tout à fait. Aujourd'hui, un peu moins peut-être, mais cette tradition-là de rester avec ses parents est très très forte. D'accord. Dans toute l'Italie.
Jusqu'au mariage.
Jusqu'au mariage, s'il a lieu. Et comme aujourd'hui, les garçons et les filles, et surtout les garçons, peuvent amener leur petite copine à la maison et faire l'amour dans leur chambre, ils ne se marient même plus. Donc, non, mais j'exagère à peine, c'est un grave problème de société en Italie. Il n'y a plus d'enfants. Il y a très peu d'enfants parce que les jeunes ne se marient pas, ils restent à la maison, donc ils ne sont quand même pas aussi fous à avoir des enfants tout en restant chez leurs parents. Donc, du coup... Ça pose toute une série de... Mais moi, je vois que toute ma génération de jeunes femmes que nous étions, enfin, pas toute la génération, mais un grand groupe que je fréquentais plus, nous n'avons pas eu d'enfants non plus. C'est ça. Et ça, c'est quand même, pour nous les femmes, c'est très important. Je veux dire, si on veut faire une vie moindrement intéressante, je veux dire...
Faire une carrière aussi.
Pas forcément la carrière, parce que je suis pas très attachée au travail en tant que réalisation, mais vouloir avoir du temps pour soi, tout simplement du temps pour soi, qui se soit après pour s'amuser, dormir, faire une activité, quelle qu'elle soit, je veux dire, la carrière, ça peut être, ça a besoin de temps, effectivement, et plus particulièrement si on veut s'exprimer, si on veut avoir une carrière artistique, alors là, c'est pratiquement impossible, je veux dire, avoir des enfants... Et faire ça en même temps, c'est très difficile. Et aussi, il faut penser que quand on a plusieurs relations, ça demande plus de temps. Mmh. On ne peut pas matériellement avoir deux relations et se donner à soi-même autant de temps que possible. Moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir aussi du temps de solitude.
Bien sûr.
Et pas mal de temps de solitude. Donc, si on veut avoir du temps pour être seul, plus du temps pour être sa première relation, sa deuxième, sa troisième, ou peu importe, il reste très peu de place pour les enfants.
Je vais rebondir vers Christine, hein, parce qu'on parle de solitude justement, et que tu disais que tu étais parfois aussi à Paris, un petit peu dans cette idée aussi de vivre chez toi, et j'imagine un peu seul parfois. Est-ce que c'est une condition, par exemple? Parce que souvent, la solitude, ben, dans nos sociétés, elle n'est pas toujours bien comprise. Est-ce que tu penses que c'est une base pour pouvoir, après, être dans plus de permissivité?
Oui, c'est possible.
Bien vivre une certaine solitude.
Ouais, il est possible, oui, que lorsqu'on sait être seul, et bien dans sa peau seule, on est plus apte, à mon avis, effectivement, à vivre ce genre de relation. Parce qu'en effet, le polyamour, ça veut dire être à un moment donné séparé de l'autre, c'est-à-dire ne plus être collé. Et le couple, enfin, dans la conception actuelle la plus répandue, c'est vraiment être collé l'un sur l'autre et ne plus décoller. Même chez les lesbiennes ou les gays, hein, c'est exactement. C'est très. Extrêmement fusionnel. Et... Donc. Il faut avoir une bonne armature et être capable de s'assumer et de vivre sa solitude avec plaisir, ce qui a toujours été mon cas. C'est pour ça que ça m'est pas du tout difficile de vivre ainsi. Je me suffis à moi-même et je ne m'ennuie jamais. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment qui m'est totalement étranger. Donc, savoir où est Patricia, ce qu'elle fait, avec qui, ça me suffit largement. Le temps, la semaine passe. Moi, je suis très occupée par mon boulot. Elle aussi, par le sien et par Marie-Paul ou d'autres sorties, les associations et le reste. Et le temps passe comme ça. Et chacune a ses activités de son côté.
Quel métier fais-tu ?
Je suis correctrice. Donc ça aussi c'est un travail dans lequel on est très solitaire et très autonome et responsable. Donc vraiment je touche du bois, mais que du bonheur pour l'instant, aussi bien professionnellement que sentimentalement, et donc tout va bien.
Je repars vers Patricia.
Oui.
Non, mais c'est aussi le plaisir de la rencontre. Oui. Et donc, dans votre parcours à plusieurs, en tout cas ici, donc vous êtes venu à deux, comme un couple peut-être de base aussi, ou en tout cas historiquement assez ancien, est-ce que pour toi, c'est des choses qui sont faciles à partager vers les collègues, vers la famille, tu as pris distance, mais vers des amitiés, ou est-ce que tu es parfois en termes de un peu discrète parce que tu te dis que c'est difficile d'expliquer aux gens?
Dans les amitiés, j'essaye, je suis relativement sélectif, donc j'essaye de ne fréquenter que des gens qui sont prêts à entendre ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'avoir pour amis, je dis bien amis, hein, pas connaissances, on a toujours des connaissances un peu involontaires, des personnes qui sont incapables de comprendre ça. Je ne prétends pas qu'ils pratiquent la même chose que moi, mais ils doivent au moins être capables d'entendre ça, hein, de dire, bon, écoute, je bois une autre femme ou je bois un homme, enfin, peu importe. Au moins, ils doivent le comprendre, l'accepter. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais ils l'acceptent. Ça, c'est une espèce de demande de base. Quelqu'un qui n'est vraiment même pas capable de ça, ce n'est pas mon ami, hein, ni mon ami. Mais par contre... Dès qu'on passe aux relations, par exemple, de travail, là, ça devient impossible. Ça devient carrément impossible. Ça devient... socialement, c'est tellement pas accepté que je dois vraiment faire très attention à ce que je dis, parce que des fois, je parle sans me rendre compte bien de ce que je dis. Et j'ai eu l'exemple très récemment, parce que je suis un cours intensif de langue, et donc à un niveau assez élevé. Et donc, quand on fait ces cours-là, eh ben, le professeur essaye toujours de nous faire parler de plusieurs sujets. Et donc, nous avions toute une série de cours dont le sujet était la vie en couple. Et donc, où on parlait de ces choses-là, quel est le couple idéal, qu'est-ce que c'est que la fidélité, tout ça. Et moi, j'étais vraiment très embêtée, parce qu'on avait même presque des questionnaires à choix multiples où il fallait dire, en cas d'infidélité, qu'est-ce que tu fais? Et c'est très embêtant parce que je n'ai pas non plus envie de me lancer dans des discussions infinies, alors que je n'ai aucune envie non plus de partager ma vie, de raconter à tout le monde comment je vis. Mais en même temps, j'étais très mal de devoir me contentais de si peu, de devoir répondre. Je sais pas, il y avait un test où on disait, un cas d'infidélité, est-ce que vous répétez ça tous les jours de votre vie à votre compagnon ou compagne? Est-ce que vous faites la même chose pour vous venger ou est-ce que vous l'oubliez pour toujours? Rien de tout ça, je veux dire... Il n'y a pas d'infidélité pour moi, donc bon, si on partait par là, on partait dans des discussions qui n'en auraient plus fini, et j'aurais été non seulement mal regardée, mais vraiment pas comprise. Donc j'estime, mais ce cas-là est plus courant qu'on ne le croit, parce que par exemple, j'ai la chance de travailler dans une institution qui reconnaît le partenariat homosexuel, je dis bien le partenariat et non pas le mariage. Donc j'ai cette grande chance d'avoir... Un compagne officiel, on l'appelle d'ailleurs par le terme de partenaire stable, ce qui me fait toujours rire. Je me dis, ça veut dire que mes autres partenaires sont instables. Mais enfin bon, les autres partenaires ne sont même pas censés exister. C'est ça. Donc là, il faut que je fasse extrêmement attention, parce que si on m'accepte en tant que lesbienne, même pas en tant qu'homosexuelle, ça c'est encore un autre débat, on m'accepte parce que je déclarais avoir une compagne et pas deux, et pas avoir un autre partenaire homme éventuellement. Donc il faut que je fasse extrêmement attention, parce que je pourrais perdre mes avantages pour si quelqu'un d'autre. Mais c'est d'une manière ou d'une autre, indirectement, que ce n'est pas le cas. Eh ben, je suis désolée, il faut que je tombe dans le moule, parce que sinon... Parce que c'est assez paradoxal, mais ces institutions, qui sont les institutions européennes, reconnaissent le partenariat homosexuel, mais ne reconnaissent pas le concubinage hétérosexuel. Donc, si on est hétéro, on est obligé d'être marié.
C'est ça.
C'est mal fait, hein, mais c'est comme ça. Il faut toujours... Il faut bien établir des critères. Et ils ont été... Avant 2004, parce que c'est assez récent, les partenariats homosexuels n'étaient absolument pas reconnus, même quand les gens venaient d'un pays où c'était reconnu. Donc, il y avait une injustice. Et pour essayer de réparer à cette injustice, ils ont reconnu le partenariat homosexuel, mais je répète, pas celui homosexuel. Donc c'est socialement, c'est vraiment très très difficile de faire passer une chose pareille. Donc voilà, la famille, je la laisse tomber, parce que la famille a eu tellement de mal. Quand je parle de famille, dans mon cas, je n'ai plus de parents depuis extrêmement longtemps, et c'est tant mieux de ce point de vue-là, parce que vraiment, j'ai éliminé une grande source de conflits, ou du moins de mensonges, parce que j'aurais été obligée de mentir tout le temps, à bout portant, sans arrêt. Mais au moins, les frères et sœurs qui restent ont mis un certain temps pour accepter que ce n'était pas avec un homme que je vivais, parce qu'en plus, moi aussi, je suis bisexuelle. Donc, j'ai, avant Christine, eu pas mal de relations, et les plus longues étaient avec des hommes.
C'est ça.
Ce qui fait qu'ils étaient un peu perturbés. Ils ne comprenaient plus bien ce qui leur arrivait. D'ailleurs, j'en discute pas. Je veux dire, bon, ils savent que je suis avec Christine. Ils se sont habitués. Comme ça fait un certain moment que ça dure, tant mieux, ça va. Mais je ne vais pas en plus les perturber en expliquant qu'il n'y a pas qu'elle. Ça deviendrait extrêmement compliqué. J'ai quelques espoirs de pouvoir un jour en parler avec mes neveux et nièces, qui ne sont pas du tout de la même génération que moi. Mes neveux et nièces sont entre 30 et... oui, ils ont la trentaine. Ils sont autour de la trentaine. Ce qui n'est pas très jeune non plus. Je veux dire, ils ont quand même déjà des relations très stables où ils essaient d'avoir des enfants ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même pas évident non plus.
Moi aussi, ben, j'ai des enfants, il y a une certaine jeunesse qui passe ici, hier encore jusqu'à 3h du matin, avec quelques jeunes. Est-ce que ce n'est pas aussi un devoir, en tant que nous adultes, d'oser prendre un peu le risque de dire un petit peu ouvertement, voilà, il n'y a pas que les couples monogames exclusifs qui existent, et ben, vous êtes une jeunesse en quête d'avenir, et ça peut peut-être être aussi rassurant. Et je crois que ça peut être un message aussi d'éducation. Parce que, par exemple, Jacques Attali, dans son livre « Amour au pluriel », dit que dans 50 ans, on sera tous plus ou moins là-dedans. Enfin bon, c'est lui qui le dit, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi, je dirais, un devoir, enfin c'est un mot un peu fort, mais une espèce de bonheur à peut-être, même si ça choque certains.
Oui, vis-à-vis des enfants et des adolescents, oui, je pense, vraiment. La difficulté que Patricia risque de rencontrer si un jour elle fait cette annonce à ses frères et sœurs, elle est évidente et elle a raison, à mon avis, ça vaut pas le coup. Enfin, ça n'a aucun intérêt de choquer les gens de cet âge. C'est déjà bien, effectivement, c'était déjà assez difficile de leur faire avaler la pilule de notre histoire à nous, donc c'est pas la peine d'en ajouter maintenant. Bon, ils ont pris les choses et ils vivent avec très correctement, ils m'ont vraiment accepté, adopté et ils m'aiment, donc c'est suffisant, on va pas en ajouter. Cela dit, pour les jeunes, la génération qui arrive, ou les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, oui, ce serait bien de leur transmettre qu'il est possible de vivre ainsi et heureux, et que ça ne pose pas de problème, et qu'on n'a pas de... Enfin, on a réussi à extraire de notre vocabulaire les mots tromperie, infidélité, mensonge, etc. Je crois que ça ne peut être que positif, même s'il y a un petit choc ou un questionnement. Bon, parce qu'ils ont, ils ont suffisamment eux-mêmes de problèmes existentiels sans qu'on leur en ajoute. Mais je pense que c'est une telle ouverture que ça ne peut être que rassurant. Et si le fait de participer à ce genre de forum, aux travaux que tu as entrepris, pouvait au moins être utile apporter quelque chose à ces jeunes, ça serait déjà une bonne chose. Parce que si on ne fait que s'écouter entre convertis, ça n'a pas tellement d'intérêt. Se regarder le nombril, ça n'a jamais apporté grand-chose. Donc oui, si ça peut ouvrir... Des brèches de ce côté-là.
Bah écoute, ça ouvre. Il y a une personne qui s'appelle Le Chocolat, c'est son pseudo, qui a rejoint le forum, qui a 22 ans, qui est en couple depuis 4 ans et qui a eu un bonheur à témoigner un petit peu ce qu'elle vivait. Et ça lui a fait beaucoup de bien d'expliquer et de dire un peu où elle en est et d'avoir amené son compagnon vers une ouverture aussi. Et donc, j'ai régulièrement comme ça, donc, petit à petit, goutte à goutte, en fait, plus de temps en temps, un petit succès de l'ordre du référencement du site, sur d'autres sites, des choses comme ça. Mais donc, je crois beaucoup au réseau. Et comme tu dis, je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est dans oser un petit peu inviter, quoi, en fait. Et donc, vous êtes bien heureuse.
Je dis pour le moment. On ne sait jamais comment les choses vont évoluer. Mais...
Il y a eu de l'exaltation.
Oui, un peu.
Ouais, si je peux dire quelque chose pour ajouter de l'eau à ce... À ce moulin-là, c'est la première fois de ma vie que je dis je veux vieillir avec cette personne. C'est ça. Patricia est vraiment la première qui a inspiré ça en moi. Auparavant, je papillonnais beaucoup, j'ai eu des histoires très fortes, très intenses, très bouleversantes et importantes. Mais jamais, je ne me projetais jamais dans le futur. Or, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, c'est avec elle que je veux finir ma vie.
Ça
je veux aller jusqu'au bout. De ressenti, non, vraiment.
C'est peut-être aussi une question d'âge. Je veux dire, c'est aussi parce qu'on se rencontre après la quarantaine qu'on commence à envisager des choses dans le genre, je pense. On commence à prendre conscience du temps qui passe, c'est qu'il faut... Il faut profiter des années qui restent. Je veux dire, il faut profiter avec cette personne ou avec d'autres, mais il faut en profiter. Tu ne crois pas ?
Moi, je ne me sentais pas du tout quarantenaire quand je t'ai rencontré, quadragénaire quand je t'ai rencontré. Hein, j'avais vraiment... Oui, mais ma tête, elle était à peine majeure, si je peux dire. Vraiment. Ah oui, moi je vivais comme une gamine de 20 ans. Non, j'ai eu envie d'entamer un long chemin avec elle, avec toi. C'est ça la différence.
Il y a déjà 15 ans.
Et c'était il y a 16 ans même, maintenant, cette année. Oui. Et bah, je crois que c'est... Oui, c'est parti pour aller jusqu'au bout. Je suis très... très sereine dans ma tête. Et je ne... Et d'ailleurs, à tel point, je vais dire, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ce qui a... C'est ce qui m'a transformée, ma rencontre avec Patricia, c'est que je n'ai plus eu envie d'aller voir ailleurs.
D'accord.
Je me suis...
Tu gardes encore cette expression, aller voir ailleurs ?
Aller voir ailleurs, parce que c'est l'expression consacrée. Oui, je ne l'entends pas comme ça, mais c'est l'expression consacrée. Je n'ai plus regardé les autres de la même façon, avec du désir ou de l'envie. Mais ça, je pense, et c'est elle qui l'analyse, hein, c'est pour ça. Alors là, je copie sur elle, je fais la rapporteuse un petit peu. C'est que je crois que j'avais tellement vécu avant, j'ai vécu tellement de choses et très tôt, à 40 ans passés, à 42 ou 43 ans, j'avais suffisamment vécu et expérimenté, goûté à tout, que maintenant je me repose. Et puis elle remplit tellement tout, elle prend toute la place, et puis ça me suffit comme ça.
Encore une fois, tu récoltes les fruits.
Oui, c'est ça. Je ne suis pas à l'abri d'une aventure. Mais comme je ne suis pas prête, je ne suscite pas non plus la démarche de la part de l'autre. Hein. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. De mon côté, c'est très, très tranquillou, là, très, très, très stable. Et puis, de son côté, c'est plus... comment dire...
Coloré.
Oui, c'est ça.
Donc c'est un beau petit bilan là. Tu confirmes aussi alors?
Ah, je confirme tout à fait. Cela dit, ça n'aurait pas duré si longtemps s'il n'y avait pas eu une telle qualité de rapport. Parce que je vais dire, c'est vraiment le respect qui est la base de ce rapport. Et moi, c'est quelque chose que j'ai peut-être appris avec elle. Parce qu'avant, j'ai un caractère qui s'emporte facilement et donc j'ai tendance à passer outre, quelquefois, les demandes et les exigences de l'autre. Là, je ne parle pas du tout de jalousie, je parle même de vie quotidienne, ou de choses beaucoup plus banales que ça. Mais avec elle, j'ai vraiment appris à bien écouter, à voir qu'en face de moi, il y avait une personne qui vit sa vie et que je n'ai pas à intervenir et à réglementer et à dire ce qu'elle a à faire. Il y a toujours des tendances à faire ça, mais au moins, je les maîtrise. Et par conséquent, j'écoute autant que je peux et je me rends compte que j'ai devant une personne qui a une grande valeur et que j'ai beaucoup de chance de l'avoir et que donc je dois tout faire pour la garder. Et quand je dis tout faire pour la garder, ça ne veut pas dire faire des sacrifices. Parce que ça, c'est un mot que j'aborde vraiment, je crois. J'ai fait une analyse, je me suis dit, je n'ai jamais fait un sacrifice pour personne. Enfin, jamais. Mais vraiment, ça ressemblait à des sacrifices, mais ça n'en était pas, finalement. Je pensais avoir fait un sacrifice, mais dans le fond, quand on regardait bien, ça me convenait à moi aussi, ce que je faisais. Donc, je n'ai jamais pu non plus récriminer contre quelqu'un, parce que tout ce qui se passait était, après tout, m'avantager d'une manière ou d'une autre. Par exemple, Christine a mentionné le fait que j'ai vécu longtemps en cohabitation avec un homme. Effectivement, ça a duré assez longtemps. Ça a duré 9 ans, quand on est jeune, c'est long. Et... comment dirais-je, je n'étais pas contente dans cette cohabitation parce que ce n'était pas mon choix. J'ai toujours désiré habiter seule, mais en même temps, j'étais totalement incapable de le faire, économiquement parlant.
C'est ça.
C'était impossible. Donc, en fait, je devais plutôt le remercier de me rendre possible le fait d'être quand même, de ne pas payer de loyer, d'avoir une certaine, ou payer un loyer absolument symbolique. Donc, je ne pouvais pas non plus lui reprocher de m'imposer cette cohabitation dans la mesure où j'avais quand même des avantages. Et dès que j'ai eu la possibilité économique de partir, je suis partie. Je veux dire, c'était... Il y a toujours quelque chose qu'on gagne et quelque chose qu'on perd. On ne peut pas donner la faute à quelqu'un d'autre de ce qui nous arrive. Et donc, dans cette optique-là, alors là, c'est encore pire avec Christine, parce qu'on est vraiment totalement indépendante. Le fait de ne pas habiter ensemble, pour moi, personnellement, est très important. Parce que être capable d'être indépendant tout en habitant ensemble demande un équilibre extraordinaire, que je ne me flatte pas d'avoir. Donc au moins, séparer les territoires, c'est toujours un bon terrain, parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, au moins j'ai chez moi et là, chez soi. Alors que je m'étais trouvée dans le passé, quand même, dans des moments de crise, parce qu'on a des crises dans un couple, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je me rappelle être sortie la nuit, furieuse, parce qu'il y avait une dispute, et puis aller dormir à l'hôtel, parce que je n'avais pas où aller. Mais encore faut-il pouvoir se le payer. On peut se le payer une nuit, l'hôtel. Mais après, je veux dire, c'est... Donc, ça fait partie de l'indépendance, ça fait partie du fait de se respecter. Et vraiment, j'ai l'impression que... on grandit dans ce respect. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui correspond à nos attentes, sans le vouloir, hein, je veux dire, c'est, on n'a pas mis en place non plus une stratégie, mais je crois que quand on rencontre quelqu'un, on a une intuition assez rapide. On se dit, ah là là, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment et que je ne dois pas me laisser échapper. Et pour ça... Je ne dis pas qu'on fait des sacrifices, mais on accepte des aménagements. Il y a des choses que j'accepte aujourd'hui, que je n'acceptais pas il y a 15 ou 20 ans. Paradoxalement, hein, même si on dirait qu'on est de plus en plus libre, non, il y a des aménagements. Il y a des choses qui n'étaient pas évidentes.
Quoi, par exemple ?
Oui, quand on est dans la revendication de l'indépendance, quand on est dans la revendication de la solitude, quand l'autre personne ne la donne pas, on se sent pas bien. J'ai un peu de mal à donner un exemple concret. Mais disons que tout devient plus facile. Par exemple, si on demande absolument un espace propre et qu'on ne l'a pas. Moi, quand je cohabitais, je ne l'avais vraiment pas, cet espace propre. Et donc, je prétendais, par exemple, des vacances séparées. J'en avais absolument besoin parce que c'était
une boule d'oxygène.
Voilà, c'était une boule d'oxygène. Maintenant, aujourd'hui, cette boule d'oxygène n'existe plus. Et pendant les vacances, je ne demande que d'être avec Christine et de partager tout avec elle. Parce que ça me manque, parce que justement, je suis arrivée à avoir envie d'une fusion que je n'ai pas d'habitude. D'habitude, je vis ma vie, elle vit la sienne, et puis on se rencontre, et c'est très bien. Mais là, il y a des moments vraiment de partage de tout qui sont formidables. Et avant, je ne l'imaginais même pas. Je pensais que quand on est ensemble avec quelqu'un, eh ben, on n'est jamais vraiment ensemble. Mais alors que si, maintenant, je pense que oui. Mais à condition d'être seule. Donc,
je signe. OK. Ça me convient tout à fait, oui, c'est, je suis sur la même longueur d'onde.
C'est un petit peu ça le message à la jeunesse, c'est d'expliquer ça, pour dire, rassurez-vous, il y a du bonheur.
Oui, oui, je pense que le bonheur, on peut le trouver dans toute forme d'alliance amoureuse. C'est pour ça que je me garde bien de critiquer les couples classiques et les amours classiques, elles aussi. Mais faire savoir qu'il est possible d'être heureux dans ce cadre-là, oui, ça, c'est très important, en effet. Et en revanche, tiens, je reviens en arrière, je reviens sur l'émission de radio dont je parlais tout à l'heure. Je n'ai jamais entendu parler de ce cas de figure. Je crois que c'est vraiment... le polyamour, c'est vraiment le tabou d'aujourd'hui, peut-être.
François Saint-Père a été invité chez Brigitte Lahaye. Ah, oui. Mais en même temps, on sent malgré tout que c'était un petit peu frileux comme questionnement.
Alors, j'ai dû rater ce grand moment.
On sent que Brigitte Lahaye s'adresse malgré tout plus à des couples monogames un peu insatisfaits.
Oui, satisfaits ou insatisfaits, hein, d'ailleurs. Mais c'est peut-être beaucoup... Oui, beaucoup demandé disons le citoyen lambda soit suffisamment ouvert d'esprit pour accepter ça d'emblée comme ça. Donc c'est tout un travail pédagogique qui sera nécessaire et passer par les grands médias pour petit à petit faire
ça commence hein, ça commence dans ça se discute là, il y avait une émission il y a 6 mois, même si l'ouverture était pas total, mais il y a un départ. À la radio, François Saint-Père était passé à l'RTBF il y a 3 ans. Oui, il y a des films, il y a des bouquins. Il y a des grands films aussi. Hein. Cristina Barcelona, là, tu vois le film. Voilà, c'est un film qui commence. Il y a aussi Jim et Jules, il y a longtemps, mais il y a aussi Nous étions libres, qui est un autre film actuel. Et
puis moi, je pense à Pourquoi pas aussi. Un film. Alors maintenant, je ne sais plus qui a fait ce film. C'était deux hommes et une femme.
D'accord. Ouais. Bah en tout cas, merci. Parce qu'on sent la fin doucement arriver, mais un petit message de fin, quelque chose.
Un petit message de fin. Oui, pensez aux jeunes. Effectivement, je crois que c'est vraiment un but qu'on pourrait se poser, parce que c'est tout ce qui est intéressant, là, vraiment, le jeune. Parce que c'est sûr, quand on a passé 40-50 ans, on a les expériences qu'on a et on arrive à un niveau de connaissance de soi. Je ne sais pas si c'est un message à faire passer, mais de toute manière, pour pouvoir avoir plusieurs relations, comme pour pouvoir avoir même une seule, mais qu'il soit équilibré, il est nécessaire de se connaître. Et ça, c'est le gros problème souvent, c'est que les gens arrivent à un âge assez tardif sans se connaître. Donc, il est encore possible de faire beaucoup de découvertes à 40-50 ans, mais encore faut-il avoir envie de se regarder en face et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est mon envie la plus profonde? Si je suis insatisfaite, pourquoi? C'est pas tout simplement parce que je gagne pas assez d'argent ou parce que je passe assez de temps libre. Ça, c'est des faux problèmes. C'est pas vrai. Quand on veut trouver le temps, on le trouve pour tout. Ou alors, il faut changer de travail. Mais je veux dire, l'essentiel, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux du temps libre pour être heureuse ou heureux? Est-ce que je veux donner de l'importance à mes amours? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je veux une famille monogame à l'église avec des enfants? C'est très bien. Si on a ce bonheur-là, eh bien, qu'on y aille. Je veux dire, mais il faut nous vouloir, il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et ça, ça demande quand même un petit retour sur soi, qui n'est pas toujours facile. Mmh. Donc, voilà.
Un grand merci.
À toi, merci.
Merci à toi, Philippe.
Donc on part tous en Italie voir tes neveux, c'est ça? Et faire un débat en italien. Hein, ça peut être sympa, ça.
Si tu veux, oui, ça pourrait être drôle.
Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin. Deux morceaux du groupe Manusic, Night Taxi Ride et A Bridge, A River and a Mountain. Ces groupes sont disponibles en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels en Belgique, les dates de rencontres Polycafé, ainsi que la possibilité de réécoute de l'émission. Je vous rappelle également les différentes diffusions de Polyplaisir des Utopies sur Radio Campus. Elles ont lieu chaque deuxième mardi du mois à 11h et en rediffusion chaque quatrième jeudi à 16h. Tout cela en fréquence modulée 92,1 MHz à Bruxelles. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des Polyplaisirs des Utopies.